Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.net ou graphite.net. Donc je suis Stéphane Croza, je suis aujourd'hui dans le studio avec Dimitri Chaline, Anaïs Watley, Clément Bida et Clément Vergier. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes tous les quatre étudiants dans le cadre du cours WE1 Écrire sur le web. Dans le cadre de ce cours, on étudie diverses choses, on essaie de voir comment fonctionne Internet, le web, et autour de ça, on pose des questions éthiques, voire politiques. Aujourd'hui, par exemple, on a fait une synthèse de quatre cours sur le capitalisme de surveillance. Alors, les étudiantes et étudiants de l'UTC travaillent chacun tout au long du semestre sur un sujet particulier en lien avec ces thématiques. Donc, le groupe d'aujourd'hui va nous parler des intelligences artificielles et nous demander si les intelligences artificielles peuvent être conviviales. Ce sera le sujet de leur intervention. Cette intervention, ils l'ont préparée également tout au long du semestre en lisant des documents, des articles scientifiques, des livres ou des morceaux de livres. Ils ont également rédigé un article autour de ce sujet et donc à présent, ils vont nous présenter une synthèse de ce travail en direct. Donc Dimitri, je crois que c'est toi qui as la responsabilité de démarrer pour poser un peu le cadre conceptuel. Je te laisse démarrer si c'est OK pour toi.
Oui. Alors, ChatGPT, Instagram, Photoshop, les IA sont de plus en plus présentes dans nos vies. On a par exemple des moteurs de recherche, dont Google, qui incorporent des IA à leur système pour améliorer les résultats. On prend l'exemple de Google, par exemple, qui a développé en 2021 Lambda, sa famille de modèles de langage. On a des réseaux sociaux qui, pour nous montrer du contenu qui nous plaît, utilisent des algorithmes basés également sur l'IA. Ou encore des logiciels comme Photoshop qui utilisent l'IA pour générer des images. Leur présence est grandissante, mais on se demande est-ce qu'elle est réellement bénéfique à l'utilisateur et à la société ? Par utilisateur, on entend par tout particulier ou entreprise qui se sert de l'IA, donc soit à des fins personnelles ou à des fins de productivité. Et par société, ce qu'on entend, c'est est-ce que l'IA fait vraiment progresser la société ? Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les IA peuvent-elles être conviviales au sens d'Ivan Illich ? Alors la convivialité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un principe introduit en 1973 par Ivan Illich, dans son ouvrage intitulé « La convivialité », où l'auteur part d'un constat, c'est qu'on tente aujourd'hui de plus en plus de remplacer l'homme par des machines, mais c'est selon lui un échec complet, puisque l'outil ne doit pas remplacer l'homme, mais il doit permettre à l'homme d'étendre son champ d'action sans menacer son autonomie ou sa créativité. Pour le citer, un outil est convivial dans la mesure où chacun peut l'utiliser sans difficulté, aussi souvent ou aussi rarement qu'il le désire, à des fins qu'il détermine lui-même. Alors ce concept, il évolue et il a changé en fonction des principes des interlocuteurs. Par exemple, dans un ouvrage intitulé « Second manifeste convivialiste », l'internel convivialiste définit la convivialité comme l'art de coopérer en s'opposant sans s'entretuer, en prenant soin des hommes et de la nature. Mais ici, nous, donc, dans cette émission, nous intéressons uniquement à la définition d'Ivan Illich. Dans cet extrait audio du podcast « Siri remplit mon verre », Gilles Le Serre revient sur le concept de convivialité.
En partant du constat problématique que fait Illich, notamment ce qu'il appelle le double seuil technologique. Le premier seuil concerne le moment où l'outil va répondre au problème pour lequel il était conçu. Le second concerne le moment où l'outil en question va poser davantage de problèmes qu'il n'apporte de réponse. Pour lui, je cite, « Passé un certain seuil, l'outil, de serviteur, devient despote. » Et il poursuit. Dans un premier temps, on applique un nouveau savoir à la solution d'un problème clairement défini. Et des critères scientifiques permettent de mesurer le gain d'efficience obtenu. Mais dans un deuxième temps, le progrès réalisé devient un moyen d'exploiter l'ensemble du corps social, de le mettre au service des valeurs qu'une élite spécialisée, garante de sa propre valeur, détermine et révise sans cesse. Pour Illich, une société conviviale est donc une société où la gouvernance des outils permet à chaque individu de se l'approprier et non d'en être un utilisateur forcé. où chaque utilisateur peut s'émanciper à travers son utilisation de l'outil, et non pas en déléguant la compréhension et le contrôle à une minorité d'experts.
Nous allons nous intéresser à la convivialité, mais en particulier à la convivialité des intelligences artificielles. Et pour cela, nous allons donc devoir introduire quelques définitions. Donc, d'abord, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de définitions de l'intelligence artificielle, mais si on prend celle du Parlement européen, l'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Pour mener notre réflexion, on étudiera le cas des IA de modèles de langage, ou LM pour Language Model, qui sont des types de logiciels informatiques utilisant l'intelligence artificielle pour comprendre et générer du langage naturel, de manière sophistiquée, comme par exemple ChatGPT ou Google Bard, qui sont très populaires en ce moment. Alors tout d'abord, pour être conviviales, ces IA, elles devront au moins être compatibles avec les valeurs du logiciel libre. On viendra là-dessus plus tard. Mais donc, un logiciel libre, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont universellement autorisées, sans contrepartie financière. On a par exemple une association qui s'appelle l'April, qui défend les valeurs du logiciel libre. On en viendra aussi à parler de libre washing, qui est une tactique visant à donner l'impression qu'une entreprise soutient le logiciel libre, mais qu'il ne le fait pas de manière sincère. Et donc nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'une IA conviviale est possible ? C'est-à-dire, est-ce qu'un procédé informatique capable de simuler l'intelligence humaine pourrait être compris et utilisé par chacun sans difficulté, c'est-à-dire sans devoir dépendre d'une minorité d'experts, et qui garantit toutefois son autonomie et permet l'expression de sa créativité.
Merci Dimitri pour cette première introduction. Et donc, Anaïs, tu vas commencer à essayer de répondre à cette question. Est-ce que les IA peuvent être conviviales au sens où vous venez de le définir ?
Donc à la suite des définitions donc amenées par Dimitri, donc notamment celle de la convivialité, on s'est alors demandé en quoi les intelligences artificielles actuelles ne sont pas conviviales. Donc on a pour ce faire effectué plusieurs constats suite à nos recherches et nos lectures. Donc tout d'abord, on a pu constater que les intelligences artificielles s'entraînent actuellement avec des algorithmes qui se basent sur des données reprenant les tendances autoritaires dans la société et donc en fait vont avoir tendance à diffuser des stéréotypes. Donc on peut par exemple introduire des recherches effectuées par deux auteurs différents. Donc dans un premier temps, Haraway en 2004 dans The Haraway Reader, et par Bender en 2011 avec Can Language Models Be Too Big, qui ont en fait montré que quand on prenait la logique de ces algorithmes d'intelligence artificielle et qu'on se demandait comment était formée une famille, donc en fait ces algorithmes vont avoir tendance à répondre qu'une famille c'est un homme, une femme qui ont en fait des enfants. Donc avec ce constat, et avec notre interprétation de la convivialité, on peut dire que ces procédés informatiques peuvent avoir un impact sur l'avenir des utilisateurs de telles intelligences artificielles, puisque des groupes minoritaires déjà mis à l'écart vont se retrouver d'autant plus mis à l'écart avec ces processus. Donc on peut par exemple prendre les couples homosexuels, qui sont minoritaires dans la société par rapport aux couples hétérosexuels. Et donc, on a voulu appliquer la logique algorithmique d'entraînement des intelligences artificielles à cet exemple. Donc, on a ainsi demandé à ChatGPT de nous raconter des histoires de couples. Et à 5 entreprises, ChatGPT nous a raconté des histoires de couples hétéros. Et donc, en fait, on a constaté que ChatGPT s'inspirait donc du modèle le plus présent dans la société. Et il fallait suggérer à ChatGPT de raconter des histoires de couples hétérosexuels ou préciser la relation, du moins, pour qu'il puisse prendre en compte ces groupes dans la société. Et donc, on voit que c'est problématique, puisque ça ne représente pas la diversité présente au sein de la société. Et donc, en fait, on peut voir que les algorithmes vont permettre aux normes sociales discriminantes présentes dans la société d'être en fait transformées en règles pour leur entraînement. Et donc, c'est un danger pour l'expression des libertés de tous. Donc, on peut illustrer cette idée en écoutant l'extrait d'une interview produite dans le cadre d'un article publié par Ouest France le 10 novembre dernier. Donc, c'est une interview de Milo Rignel, un expert résident et responsable des projets sur le numérique et les nouvelles technologies à l'Institut Montaigne.
Je pense qu'il faut rester très concret. Donc, aujourd'hui, les principaux risques de l'IA, je dirais qu'il y en a deux. Il y en a un premier qui concerne des risques sociétaux, par exemple des IA qui peuvent être biaisées, et donc reproduire, en apprenant des données qui sont biaisées du monde externe, elles vont pouvoir reproduire des comportements biaisés. Biaisé, ça veut par exemple dire un système d'IA qui, quand on lui demande de nous fournir une image de médecin, va systématiquement nous donner une image d'un homme plutôt que d'une femme. Ou bien quand on va lui demander qui est-ce qu'il faut recruter entre deux CV, de CV identiques mais avec des noms un peu différents, va choisir le CV avec un nom connotation catholique plutôt que musulmane, par exemple. Et donc...
Eh bien, l'extrait a été coupé, je te laisse donc enchaîner peut-être Anaïs, ou peut-être tu te souviens de ce que disait la suite de l'extrait, où on avait eu l'essentiel peut-être à ce stade, hein ?
Oui.
Ok, on peut enchaîner alors.
Donc pour finir sur cette idée, on peut quand même nuancer et ajouter qu'il existe tout de même des outils qui pouvant améliorer donc, les méthodes d'entraînement algorithmique et ainsi pouvoir à l'avenir supprimer ces problèmes discriminatoires induits lors de l'entraînement. Donc c'est des arguments qui ont été amenés par Kohler Haussmann en 2019 qui a indiqué qu'il fallait travailler dans ce sens sur le progrès dans le cadre de la loi et de l'éthique pour pouvoir mieux l'inculquer aux intelligences actuelles. Donc, ensuite, on va parler du fait que, en plus de faire perdurer des stéréotypes, donc les IA peuvent aussi être vues comme un danger pour certaines activités humaines, notamment les activités créatives. Donc, dans un premier temps, on peut citer la poésie. Donc, on a pu voir que des intelligences comme Google, Verse by Verse, sont en fait capables d'aider dans la rédaction de poésie en s'inspirant de poètes célèbres, comme l'a présenté l'auteur Holt en 2020. Ou encore, on peut prendre un autre exemple avec GPT-2, qui a été utilisé pour générer de courtes histoires dans le style d'auteur, comme Neil Gaiman ou encore Terry Pratchett, et aussi des poèmes, comme a pu le faire Google Verse by Verse. Et donc en fait, c'est des pratiques qui peuvent représenter une menace, et même représentent une menace pour les activités créatives littéraires, puisque ici on a une pratique qui permet donc d'aider les humains dans leurs travaux comme ça pouvait déjà être le cas avant avec les bibliothèques où on pouvait trouver des ressources pour s'aider dans sa composition ou encore plus récemment l'accès au web. Mais en fait la différence ici avec l'IA c'est que la création en fait va être permise très rapidement et en fait en un seul clic on va pouvoir par exemple générer une poésie, générer de courtes histoires alors qu'avant c'était des tâches qui nécessitaient plusieurs heures de travail pour les réaliser par l'humain. Et donc en fait ici c'est le danger de telles machines à intelligence artificielle, c'est qu'elles sont en fait capables non seulement d'aider mais en fait de remplacer l'humain dans sa création en réalisant tout le processus de façon similaire. Donc on peut ainsi conclure et dire qu'au vu de notre définition de la convivialité, on observe bien ici une menace pour l'autonomie créative des humains. Donc maintenant, je vais passer la parole à Clément qui va vous parler des IA libres.
Donc je vais dans cette partie vous détailler un petit peu le fonctionnement des IA, qui est un fonctionnement assez particulier, et en particulier celui des language models, des LM. Et on verra que ce fonctionnement est d'ailleurs l'une des raisons de la non-convivialité des LM. Commençons par définir ce qu'est un logiciel libre, ça nous servira pour la suite, et de voir comment on pourrait définir un logiciel open source. Donc... Un logiciel libre, comme Dimitri l'a rappelé en début d'émission, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont universellement autorisées, sans contrepartie financière. Et ce qu'on ignore souvent, c'est que en fait, cette définition elle est étymologiquement identique à celle de la notion d'open source. C'est ce que rappelle Dimitri Borsmeyer dans un de ses articles. Stéphane Bortsmeyer dans l'un de ses articles, excusez-moi, mais avec toutefois quelques différences d'ordre politique. Donc, par exemple, les défenseurs de l'utilisation de la notion de logiciel libre prônent plutôt une société justement libre, plus libre et émancipée, tandis que la notion d'open source fait plutôt écho au libéralisme. Mais on voit quand même que ces deux notions sont très proches, voire même synonymes. Mais alors, vous allez me dire, quel est le lien avec les LM ? Eh bien, c'est que beaucoup se définissent justement comme open source pour profiter du flou autour de cette notion. Vous avez dû entendre parler récemment du LM de Facebook, Llama, qui est décrit comme open source. Et en fait, l'unique but derrière tout ça, ça serait de rendre plus abordable et plus sympathique pour, in fine, permettre de l'utiliser, quitte à faire un petit peu de libre washing. Parce qu'en réalité, la plupart des LM ne sont pas open source, ni libre d'ailleurs, car certaines données restent obscures pour l'utilisateur. On peut par exemple télécharger certains LM sur nos ordinateurs, c'est le cas de ChatGPT depuis quelques mois, qui est disponible en application dans pas mal de pays. C'est souvent l'argument qui est avancé pour justifier qu'ils sont open source, mais on n'a quand même pas accès pour autant aux bases de données, qui est quelque chose de fondamental et nécessaire pour comprendre leur fonctionnement. Donc par exemple, on ne sait absolument pas quelle est la base de données utilisée pour entraîner les LM, et cela implique la qualité du résultat obtenu. Si j'osais faire une analogie des LM et justement des bases de données, je dirais qu'on pourrait modéliser un modèle de langage comme une voiture. On pourrait avoir une très belle voiture, mais la base de données serait la clé de la voiture, et donc sans cette clé, on ne peut pas démarrer, même si le programme et donc le language model est très bien fait, très bien codé. Il faut quand même une base de données qui tienne la route pour avoir des résultats qui soient cohérent. De plus, toujours dans cet article de Stéphane Bortsmeyer, publié en 2023, il soulève d'autres questions qu'on ne développera pas forcément, mais que j'avais envie d'évoquer avec vous, notamment sur l'utilisation des LM, qui se fait souvent via des clouds, et cela fait émerger de nombreuses questions, notamment sur la gestion de nos données. Comment sont-elles conservées ? Est-ce qu'elles sont sécurisées ? Est-ce qu'elles sont utilisées à des fins commerciales ou non ? En réalité, nous n'en savons rien. Et donc c'est là aussi un des problèmes majeurs des LM, c'est qu'on ne sait pas ce qui est fait de nos données. Alors en pratique, il existe certains modèles de langage qui sont complètement libres et qui donc pourraient devenir conviviaux, au sens de la définition qu'on a donnée au début de cette présentation. Je pense notamment au modèle Falcon, qui est actuellement le modèle open source le plus puissant à jour, mais en réalité, il sera difficile de créer des LM libres capables de rivaliser avec les géants de l'intelligence artificielle au vu des problématiques imposées par leur fonctionnement. En effet, pour rendre un modèle performant, il est nécessaire de l'entraîner avec des quantités astronomiques de données. Et or, ceux qui maîtrisent le mieux ces données, vous vous en doutez, c'est ceux qui ont les moyens d'y accéder, et ce sont les géants de la tech comme Meta, OpenAI, Google et tant d'autres, qui d'ailleurs ont des LM très performants. Il faudra donc sans doute se contenter de modèles avec une base de données plus petite, qui seront donc moins performants, moins pertinents dans leurs réponses, s'il en soit des modèles de langage plus conviviaux. Pour résumer, on se rend aisément compte que les IA actuelles ne sont pas conviviales, car elles ne favorisent pas la transparence et le dialogue entre l'utilisateur et la plateforme propriétaire de l'IA. Et les entreprises mettent parfois au point des logiques de libre washing qui trompent sciemment l'utilisateur, quitte à le tromper et à l'induire en erreur. Je terminerai ma présentation avec une petite vidéo YouTube de l'anthropologue et chercheur en IA Paul Jorion, qui va clôturer mon sujet et qui amorcera aussi la partie prospective de Clément. Donc je vous laisse écouter cette vidéo, qui est assez évocatrice du monde dans lequel on vit.
L'avant-dernier terme, le pénultime M dans GAFAMI, c'est pour Microsoft, très très grosse entreprise créée par Monsieur Bill Gates à une époque. On est en train de transvaser une structure qui pouvait être encore dirigée par un but non lucratif comme celui du bien de l'humanité dans son ensemble, dans un moule libertarien, ce qui est peut-être pas le meilleur en l'occurrence, est en train de basculer entièrement vers une structure de type commercial, de classique, ce qui semble... Bon, moi, je trouve pas que ce soit une bonne chose, mais quand il faut investir des sommes comme de l'ordre de 10 milliards de dollars pour lancer le produit, difficile à éviter dans un monde capitaliste comme le nôtre.
Donc ici, Paul Jorion faisait référence au rachat d'OpenAI par Microsoft. Et donc, vous l'aurez compris, il explique que les language models ne sont pas prêts de devenir conviviaux, du moins pour les plus gros comme ChatGPT, car ils sont rachetés par des entreprises capitalistes qui ont donc pour objectif la recherche du profit maximum. Voilà, je vous laisse avec Clément qui va vous faire une petite prospective sur les IA.
Donc pour finir cette présentation, je vais vous partager une petite fiction d'anticipation que nous avons écrite ensemble. En écrivant cette histoire, nous avons cherché à savoir de quelle façon nous pourrions avoir des IA de modèles de langage dans notre société, des IA, des LM conviviales bien évidemment. Depuis les années 40, 2040, la société IA 2100 développe des IA permettant de simuler des conversations comme si vous échangez avec d'autres êtres humains, voire même vos amis proches. En effet, l'IA arrive même à comprendre les références de votre groupe d'amis. Cette prouesse technique les a amenés à avoir un véritable monopole sur le marché des DLM. Cependant, ce marché a basculé en 2050. En effet, cette année-là, un message avec un lien vers les bases de données de l'entreprise IA 2100 est apparu sur différents réseaux sociaux. Via cette fuite de données, on apprend enfin les différents secrets derrière leurs IA. Par exemple, on apprend qu'ils se sont entraînés sur des échanges privés de millions d'utilisateurs de différents réseaux sociaux pour réussir à faire ces IA révolutionnaires. Ceci est une claire violation du droit sur le secret des correspondances privées. Pour être précis, de l'article 226-15, alinéa 2 du Code pénal. Mais ce n'est pas la seule loi qu'ils ont enfreint, ce n'est pas le seul problème juridique qu'ils ont créé. En effet, ils ont créé d'autres problèmes juridiques avec différentes autres lois, notamment celles visant le droit d'auteur. En effet, ils ont utilisé des œuvres protégées pour créer leurs IA, ou alors n'ont pas respecté les licences libres associées à d'autres. Suite à cette fuite de données et ces différents problèmes juridiques, l'Association sur les droits européens digitaux, l'EDRI, a décidé de mener une action en justice contre cette entreprise auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Voici un petit audio de la présentation de la Cour de justice dans le monde du numérique, issue des années 2020.
Nous utilisons tous de plus en plus les services en ligne au quotidien pour partager des nouvelles, nos points de vue et des photos avec des amis partout dans le monde. Mais ces services apportent leur lot de défis, le plus grand étant de garantir la protection de notre vie privée et de nos données personnelles dans un monde en pleine mutation. La Cour de justice a souvent été appelée à se prononcer dans des affaires concernant notre droit à la vie privée en ligne. En 2014, la législation de l'Union qui conférait aux pays de l'Union européenne des pouvoirs étendus pour conserver et consulter les données personnelles des internautes a été annulée par la Cour au motif que cela portait inutilement atteinte à nos droits fondamentaux à la protection de la vie privée et des données personnelles. Un an plus tard, la Cour a invalidé une décision de la Commission européenne autorisant Facebook à transférer les données personnelles de ses utilisateurs européens aux États-Unis, car l'accès du gouvernement américain à ces informations n'était pas soumis aux mêmes garanties et limites que dans l'Union européenne. Dans une autre affaire impliquant Google, la Cour de justice a jugé que les citoyens de l'Union européenne avaient le droit de demander à un opérateur de moteur de recherche d'effacer les entrées les concernant de la liste de résultats d'une recherche sur leur nom. Cela nous donne ainsi un meilleur contrôle de notre présence sur le web. Par le biais de ces affaires, et bien d'autres encore, la Cour de justice s'efforce de veiller à ce que nous puissions profiter des services en ligne en toute sécurité, sans subir d'intrusions inutiles dans nos vies privées.
Ainsi, avec cette petite vidéo qui date de plus de 30 ans maintenant, nous remarquons que ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes entre la tech, le monde de la tech et les droits européens. Ainsi donc, ce procès s'est clairement conclu contre IA 2100. Et c'est cette conclusion qui a vraiment marqué le siècle. En effet, après ce procès, l'entreprise IA 2100 est contrainte de rendre public l'ensemble de ses données, que ce soit leur algorithme, donc les algorithmes des LM, ou alors l'ensemble des données pré-traitées utilisées pour l'entraînement de leurs IA, c'est-à-dire leur base de données. Dès lors, leurs IA deviennent réellement libres, et de nombreuses nouvelles IA sont vues apparaître ici et là. Ces dernières doivent suivre cependant les mêmes règles de publication pour être toutes libres. Un peu comme fonctionne la licence Creative Commons avec partage dans les mêmes conditions ou la licence GPL. De cette façon, il y a une garantie légale pour empêcher une nouvelle privatisation des IA. Cependant, tout le monde n'a pas les capacités de stocker autant de données chez lui. C'est pourquoi l'ensemble des données sont stockées sur un serveur public appartenant à l'État. Mais c'est bien d'avoir accès à ces données, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont compréhensibles et exploitables par tous. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'accompagner cette émergence de l'IA en mettant en place des permanences informatiques dans toutes les villes. De cette façon, les personnes souhaitant utiliser une IA pourront le faire en étant accompagnées, ou alors elles pourront se former pour les utiliser seules si elles le désirent, voire même développer de nouvelles IA. Cependant, on remarque que ces IA faites par des particuliers ont tendance à être plus modestes en termes de capacité que les IA faites par l'entreprise de IA 2100. C'est-à-dire qu'elles ont moins de capacité et de variété de réponses, et elles ont aussi une petite tendance à être un peu plus lentes. On remarquera donc que ces mesures gouvernementales n'ont pas pour objectif de créer de nouvelles IA, les nouvelles IA de demain, de créer des IA très performantes, non. Elles ont pour objectif de garantir une convivialité de ces IA comme des actions autonomes, à l'aide d'outils les moins contrôlables par autrui. Et ainsi se termine notre petite histoire de l'année 2050.
Merci beaucoup Clément pour cette conclusion. Vous l'aurez compris dans cette dernière partie de l'intervention, Clément nous relatait une fiction. Donc un certain nombre des faits qu'il a énoncés ne se sont pas encore produits. Merci à tous les quatre pour votre présentation. Donc vous êtes partis de la notion de convivialité que vous avez définie, c'est-à-dire la possibilité pour les humains de s'approprier, de garder en quelque sorte un certain contrôle sur leurs outils. Vous nous avez proposé également le concept donc de logiciel libre, c'est-à-dire dire si des IA devaient être conviviales, une condition nécessaire, peut-être même pas suffisante, mais nécessaire, était que cette logique de le logiciel libre soit conservée, ce qui permettait l'appropriation. Vous nous avez posé notamment le fait que un des problèmes principaux était les données d'entraînement, la large quantité de données d'entraînement nécessaires que, en général, les éditeurs de ces IA conservaient. Quand je dis des larges quantités de données, on parle en général de plusieurs centaines, plusieurs milliers de milliards d'enregistrement. Et vous nous avez cité quelques exemples, effectivement, d'IA plus modestes qui libéraient également leurs sources de données. Également, dans la fiction, vous avez ouvert sur la nécessité de formation associée. C'est-à-dire que non seulement il faut des IA libres, il faut des données libres, mais en plus, il faut la capacité de les utiliser. Voilà pour une rapide synthèse. Alors maintenant, je vais vous prendre quelques questions qui ont été posées par vos collègues qui vous ont écouté pendant ce temps-là. Eh bien, je vais peut-être commencer par la dernière ou l'avant-dernière, parce qu'il y en a une autre qui vient d'arriver, posée par Victor, qui est directement en lien avec la fin, mais on pourrait dire l'ensemble de votre sujet. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est OK, ce que j'ai compris, c'est que si on faisait des IA libres, comme vous l'avez dit à la fin, elles seraient plus modestes, mais du coup moins performantes. Vous avez dit également un peu plus lente, et donc en gros, est-ce qu'à un moment ces IA finalement, eh bien elles seraient quand même en capacité de nous rendre les services que l'on cherche? En gros, est-ce que ça servirait encore à quelque chose une IA conviviale, ou est-ce que ce serait pas juste un outil qui sert à rien parce qu'il fonctionne pas assez bien, quoi, en quelque sorte?
Alors dans le cas de notre fiction, on est parti du coup sur l'idée de 2050 et donc d'IA extrêmement poussée à l'origine. C'est pour ça qu'on avait pris l'exemple de ils arrivent à reproduire les références que vous pouvez avoir vos amis. Vous créez un nouveau mot comme incroyable pour dire que c'est plus incroyable qu'incroyable, et bien l'IA le comprendrait à ce moment-là. Mais du coup là, quand on dit que ce serait plus modeste, ça serait en soi l'équivalent de ce que nous avons déjà de nos jours, voire même un petit peu mieux, un petit peu plus juste. Donc ça serait on pourrait donc retrouver l'utilisation qu'on a déjà actuellement avec ChatGPT ou autre pour parfois faire des traductions d'une langue à l'autre, ou pour demander une traduction en langage
de code ou autre, ou même parfois pour aider à rédiger certaines parties. Donc on pourrait toujours y voir une utilité, mais elle serait sans doute plus limitée que l'ensemble des possibilités que nous pouvons voir, nous, actuellement, en 2020, sur ces IA.
Ouais, ok, donc l'idée de cette convivialité, c'est qu'on aurait quand même un certain niveau de performance, mais peut-être pas une recherche ou une course à l'armement aussi forte qu'on a actuellement. Peut-être en lien avec cette question aussi, là, ou pas tout à fait en lien d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je cherche à faire un lien. Donc, autre question de Romain. Il nous dit, ok, donc on a des IA conviviales, admettons, mais... Comme vous venez de le dire, il y avait bien un lien, on veut quand même qu'elle soit performante. Si on veut qu'elle soit performante, il faut quand même une grosse base de données. S'il y a quand même une grosse base de données, alors est-ce qu'à un moment, on n'a pas quand même une logique de centralisation? Est-ce qu'on n'a pas un risque de fuite de données? Est-ce qu'on n'a pas les risques que vous avez posés un petit peu au début dans la première partie? Est-ce qu'ils ne risquent pas de se manifester quand même, même dans ce contexte-là, si on a des IA assez performantes? Et on ne retrouverait pas, en fait, en quelque sorte, les problématiques d'influence que les GAFAM ont ont aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vas-y, Clément, à nouveau.
Eh bien... Nous avons dit que du coup, dans notre cas à nous, nous finissions avec l'État qui contrôlait tout ça et que l'ensemble de ces données étaient libres. C'est-à-dire que tout le monde a accès à ces données. Justement, le donnant à l'État, l'objectif est, pour nous, était clair de... il faut que du coup, l'ensemble de ces données soit fourni à tout le monde. Et comme c'est difficile que tout le monde y ait accès, c'est à l'État du coup de fournir une structure pour cela. Nous avons dit l'État parce que, pour nous, c'était plus simple. Mais en soi, on pourrait dire... un institut indépendant qui met tout de façon, qui publie tout de façon claire sur Internet. Donc il n'y aurait pas de risque de centralisation parce que même si c'est mis à un endroit, tout le monde y a déjà accès pour venir le voir en soi.
Ok, ce sera à la fois une centralisation, mais quand même disponible pour tout le monde. Néanmoins, ça règle quand même pas complètement la question des données personnelles. Et je suis pas sûr qu'Ivan Illich serait complètement d'accord avec ton idée de tout donner à l'État. Mais c'est entendu pour cette réponse. On change un petit peu de sujet. Je vais faire la synthèse de plusieurs questions qui ont été posées. Une des toutes premières questions qui avait été posée, c'était à votre connaissance, donc je vous fais une question en plusieurs morceaux là, hein, mais à votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà des lois en France ou dans d'autres pays qui légifèrent, donc qui posent des contraintes sur l'usage des IA? Sinon, est-ce que il en faudrait ou est-ce qu'effectivement il y a aujourd'hui des gens ou des mouvements qui envisagent de poser de telles lois? Et puis une autre question posée par Paul cette fois-ci, première question était inspirée par Mathieu. Autre question posée par Paul mais directement en lien, est-ce qu'on a des moyens en fait de détecter l'usage des IA? Parce que si on légifère en disant que eh bien il faut interdire certains cas d'usage d'IA mais qu'on n'a pas les moyens de le détecter, quelque part on est embêté un peu dans tout les cas. Donc voilà, est-ce que vous avez des éléments autour de tout ça?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'État encore qui ont vraiment des lois pour réguler un peu les IA. Voilà, c'est encore quelque chose qui est assez flou. Et le problème surtout, c'est que les entreprises donc comme OpenAI donnent des arguments comme quoi les textes qui sont générés par ChatGPT utilisent des textes de tellement d'auteurs différents qu'en fait ça devient impossible de reconnaître de qui vient tel bout de texte, et donc en quelque sorte il respecterait le droit d'auteur. Et donc je pense que c'est assez compliqué de légiférer là-dessus. Et la deuxième question, c'était...
Tu as répondu aux deux premières parties, mais en gros, est-ce que par rapport à ce dont vous avez parlé, est-ce qu'on pourrait imaginer des lois? Est-ce que vous avez en tête des lois qui pourraient être souhaitables? Bah, peut-être par exemple, comme vous avez parlé de la nécessité d'ouvrir le code ou d'ouvrir les données, est-ce qu'on peut imaginer des lois qui imposeraient un certain nombre d'ouvertures ou de partage d'informations? Selon vous, vous avez déjà connaissance peut-être de mouvements ou d'organisations qui réclament ce genre de choses?
Alors c'est sûr qu'il faudrait, je pense, au moins plus de transparence sur les données, les types de données qui sont utilisées donc par les entreprises, savoir d'où viennent... D'où vient le texte qui est généré, en fait.
Et plus globalement, il ne faut pas oublier que les IA, elles sont quand même générées souvent par les GAFAM. Donc, à l'échelle d'un pays, on ne représente pas grand-chose. Si on était amené à légiférer pour les rendre plus transparents, demander une certaine transparence, justement, qu'il y ait une protection des données, il faudrait au moins que ça passe par, une échelle un peu plus haute qu'un pays comme l'Union européenne ou qu'il y ait des accords multilatéraux qui nous protège justement dans cette optique-là.
Ok, donc vous avez, on a vu quelques éléments, effectivement, essentiellement sur les difficultés. On en revient aussi, peut-être quelque chose que vous avez évoqué à un moment, mais cette notion de convivialité, il y a aussi une notion d'échelle. Hein, vous avez parlé de plus petits ensembles de données, de plus petites tailles, etc. C'était aussi très présent dans les travaux d'Illich, c'est-à-dire qu'à un moment, à l'échelle mondiale, c'est difficile à faire. Peut-être une dernière question pour terminer cette émission. Pareil, je vais essayer de faire la synthèse de plusieurs questions qui ont été posées, notamment autour de la créativité. Je crois que c'était Judith de mémoire, si je dis pas de bêtises, qui nous avait demandé. Finalement, vous nous avez dit que l'IA était une menace pour la créativité artistique, mais en fait, si on considère que les IA elles-mêmes sont créatives, c'est pas une menace, ou alors c'est une menace peut-être pour la créativité uniquement du point de vue humain. Je me permets de le reformuler comme ça. Peut-être qu'on pourrait aussi transposer un peu avec le domaine qui nous occupe, le domaine scolaire. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, donc peut-être revenir un peu là-dessus. Peut-être ce qui différencie l'IA des autres techniques, même numériques, qu'on utilisait avant, comme les moteurs de recherche ou comme Wikipédia, c'est qu'elle cherche pas seulement à nous outiller, mais qu'elle cherche à nous imiter ou à nous remplacer. Et du coup, on est bien aussi au cœur de la problématique posée par Elie, sur celle du remplacement de l'activité humaine. Donc peut-être qu'une façon de dialoguer avec Judith, c'est de voir dans quelle mesure... elle a raison, il y aurait peut-être une créativité des IA, mais finalement, à quoi ça nous sert en quelque sorte. Et peut-être, je ne sais pas si ça vous interpelle, mais une transposition dans le mode scolaire, c'est-à-dire que oui, je suis d'accord, moi, si une IA est très créative pour nous produire des articles ou des émissions de radio dans le cadre de WE1, c'est chouette, mais du coup, est-ce que ça va intéresser les gens de les écouter, ou est-ce qu'ils les feront écouter par des IA ou... Voilà, je ne sais pas si vous avez des petits éléments à rajouter là-dessus pour conclure.
Je dirais qu'en fait, ça dépend déjà de la notion, de la définition de créativité qu'on va amener pour pouvoir dire que, s'il y a la caractérité de créative, parce que comme on peut faire l'analogie justement avec le milieu scolaire, et si on n'utilisait que des IA pour faire nos travaux, au final, est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt à évaluer nos travaux, puisque certes, ce serait peut-être quelque chose de créatif, mais au final, ça viendrait pas de la créativité humaine. Donc, est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt à faire ça, quoi ?
Ok, allez, si vous voulez ajouter un petit mot les uns les autres, allez-y, je vois les mains se lever. Vas-y, Clément, un.
Pour moi, il y a aussi une question de compétence, c'est-à-dire que, certes, elle va pouvoir créer un texte, une rédaction et autres, mais du coup, moi, ma capacité de réflexion aussi de structuration de mes pensées va du coup en être impactée. Si jamais depuis tout petit je fais toujours toutes mes rédactions par ChatGPT, conclusion, moi je n'ai pas la capacité de pouvoir structurer mes idées, c'est toujours je dois passer par un autre outil. Conclusion, le jour où je suis coupé d'internet et que je ne peux plus utiliser ChatGPT, je deviens complètement incompétent. Et ensuite, pour revenir sur le côté de création et de est-ce que du coup ça ne peut pas aider la créativité, ça me rappelle l'histoire que j'ai lue récemment du premier manga qui a été fait, où ça est écrit par un auteur mais les dessins sont faits avec une intelligence artificielle. Et donc cet auteur cherche justement à questionner l'intérêt et l'utilisation de ces outils, de ces IA, pour aider à créer, parce que lui n'est pas forcément très bon en dessin. Et il montre quand même que derrière, du coup, cet outil de création, il faut chercher les bons prompts, les bonnes directives à donner, trouver des façons, du coup, de contourner les défauts actuels, c'est-à-dire le changement de visage d'un plan sur l'autre, les mains pas très précises, et du coup, utiliser des caractéristiques précises pour s'aider et réaliser les différents dessins. Et donc, que c'est une béquille pour sa création, mais que ça n'est pas remplacé pour autant.
Clément, tu voulais dire...
Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous aviez dit dans votre question. Vous dites que finalement, les IA auraient pour but de nous imiter ou voire même de nous remplacer. Mais en réalité, on ne sait pas trop, justement, d'où le problème de ne pas avoir accès au code et aux bases de données. On ne sait pas ce qui a véritablement été enseigné aux IA. On ne sait pas quel est leur but, quelle est leur finalité. Et donc, c'est un petit peu l'objet aussi de notre intervention, c'est de mettre en garde, de dire qu'il peut y avoir des dangers, tout n'est pas tout rose et qu'il faut se méfier et qu'il y a parfois des alternatives aussi qui existent et qui certes sont peut-être moins performantes, mais c'est pas forcément le même usage.
Tu as pris un exemple dans les mangas, ça me rappelle quand même une conférence qui avait été donnée par Pig et G de Framasoft qui s'appelait Numérique et effondrement, qui avait été repris ici dans une émission de Picasoft et que je réécoutais justement ce matin. Et il prenait l'exemple dans un domaine médical et ça rejoint exactement ce que tu disais, hein, Clément, sur la perte de compétences. Et il prenait l'exemple de la détection des cancers du sein. Je trouve que c'était vraiment très très parlant, parce qu'il expliquait que les IA étaient beaucoup plus performantes que les humains aujourd'hui, que la plupart des médecins, pour faire une détection de cancer du sein. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on est plutôt content. Sauf que du coup, il y a un risque qu'on perde le savoir-faire qui consiste effectivement à détecter ces cancers du sein. Alors, dans un contexte où on aurait toujours accès à ces IA, c'est pas un problème, mais si on perd cet accès, évidemment, on voit bien que c'est problématique. Donc un peu de la même façon là, eh bien on pourrait imaginer que peut-être les dessinateurs de manga perdraient les compétences, ou que les étudiants de l'UTC petit à petit perdraient leurs compétences rédactionnel ou que sais-je, en le faisant faire les travaux par des IA. Eh ben, je ne sais pas si vous avez un dernier mot de la fin. On profite un peu comme vous êtes tout seul à passer aujourd'hui.
Bah, du coup, moi, pour répondre à ce que vous avez dit, je pense que oui, dans le domaine, tout ce qui est domaine technique, domaine médical, les IA peuvent être plus performantes que l'humain. Mais après, par exemple, si on se questionne par exemple sur le domaine de l'art, est-ce que bien que des IA pourraient être créatives, mais au final, leur créativité reposerait en fait sur une inspiration d'autres artistes. Est-ce que les IA seraient capables en fait d'être un artiste en tant que tel? Donc, je sais pas, créer des peintures qui vont devenir incontournables, des histoires que tout le monde reconnaîtra comme quelque chose de vraiment exceptionnel.
Eh ben écoute, on garde ça en question ouverte pour l'avenir, et puis on se donne rendez-vous d'ici 2-3 ans pour refaire le point ensemble. Ouais. Ça te va, Anaïs? Je vous souhaite à tous les quatre une bonne fin de journée. On salue les auditeurs de Graphite. On va leur remettre de la musique. Et puis voilà, c'est tout. Au revoir. Et rendez-vous donc pour la suite autour de 16h30, 16h45 avec deux groupes qui passeront avec Quentin Duchemin. Et puis rendez-vous à nouveau la semaine prochaine et la semaine d'après pour d'autres émissions dans le cadre de WE1.